Invité sur France Inter, il est 19h. Cécile Bideau pour le journal. Bonsoir Cécile.
Bonsoir. Nous poursuivons cette édition spéciale 15 heures après le début de l'invasion de l'Ukraine. L'armée russe, la deuxième plus importante du monde, avance très vite vers la capitale Kiev. Des militaires viennent d'être parachutés sur un aéroport tout proche. Des colonnes de blindés entrent par l'est, le nord, le sud. Un quasi-encerclement de l'Ukraine. Des combats seraient en cours à Tchernobyl. Les Russes auraient pris le contrôle du bâtiment. Nous allons à Kiev pour vérifier tout cela dans un instant. Nous serons aussi à Moscou, où Vladimir Poutine continue à dire qu'il n'avait pas d'autres moyens pour se défendre et réprime les manifestants anti-guerre. Cette offensive russe est un tournant dans l'histoire, a dit Emmanuel Macron. Le monde se mobilise pour que cette guerre cesse immédiatement. Ce soir, les regards sont tournés vers Washington et Joe Biden qui prend la parole dans une demi-heure. L'Union européenne s'apprête à annoncer une nouvelle série de sanctions massives contre la Russie. Nous irons à Bruxelles. Nous verrons aussi quelles conséquences cette crise a d'ores et déjà sur l'économie, chez nous et partout dans le monde. Et bien sûr, Fabienne, le téléphone sonne pour l'Ukraine ce soir.
Et oui, vous avez tout le contexte, il vous reste les questions, vous en avez beaucoup et c'est normal. Soyez les bienvenus, nos spécialistes sont là pour y répondre. Et le numéro de téléphone, vous le connaissez, c'est le 01 45 24 7000.
France Inter. Nous venons donc de vivre un premier jour d'une guerre sur le sol européen. Depuis 4 heures ce matin, la Russie a lancé l'offensive sur l'Ukraine, sur les Ukrainiens et notamment Oleg.
Brusquement, ce matin, il y a un nouveau conflit qui éclate avec une force incroyable. On parlait de déclaration de guerre ou d'invasion ou d'attaque, une attaque russe.
Oleg, habitant de Dnipro, au centre de l'Ukraine, mais le pays est frappé de toutes parts. Bombardement sur la capitale, Kiev, sur Kharkiv, la deuxième ville du pays, sur Odessa, au bord de la mer Noire, et Mariupol, principal port de l'Est. Les forces terrestres russes ont également pénétré sur le territoire ukrainien, le prenant en tenaille depuis la Russie, la Crimée, mais aussi le Bélarus. Nous sommes en direct de Kiev avec l'un de nos envoyés spéciaux. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir.
On a vu les premières images de soldats russes sur le territoire ukrainien et on évoque la prise de contrôle de Tchernobyl par les Russes. Où en est-on ?
Alors, tout dépend des axes de pénétration. Les blindés de l'armée russe ont pénétré dans le pays. Alors, sur le nord, d'abord, avec la Biélorussie comme base d'assaut. Là, la progression des blindés russes n'est pas fulgurante. La zone où ils ont pénétré, c'est la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et par là, ils sont entrés en Ukraine sur le site de l'ancienne centrale. C'est la voie, en fait, la plus directe pour foncer vers la capitale ukrainienne. Mais pour le moment, la dite progression est freinée par la résistance de l'armée ukrainienne. En revanche, et probablement arrivée de Biélorussie également, un posé d'assaut d'hélicoptères à la mi-journée a permis à l'armée de Moscou d'investir et de tenir l'aéroport d'Orchomel. C'est à 25 km à peine au nord-ouest de la capitale ukrainienne. L'armée ukrainienne conduit en ce moment même une contre-offensive et la bataille sur l'aéroport se poursuit à l'heure où nous parlons. Sur la façade orientale du pays, là, les blindés russes ont été en grande partie arrêtés par les Ukrainiens. Sauf sur la ville de Soumy, au nord-est du pays, où des blindés ont été vus en centre-ville tout à l'heure, et il est à craindre que la ville soit sur le point de tomber. Enfin, sur l'axe de progression à partir du sud, à partir de la Crimée qu'ils occupent depuis 2014, les forces russes se sont littéralement ruées à l'assaut de la province de Kherson. Kherson, c'est le port à l'embouchure du Dniepr, ville importante économiquement avec ses chantiers navals. On voyait cet après-midi sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos de soldats russes patrouillant à pied dans le centre-ville. Manifestement, Kherson, 300 000 habitants, est tombé. C'est la première ville d'importance avoir été prise par l'armée russe en Ukraine.
Mais est-ce qu'on peut, à cette heure, établir un bilan des pertes civiles et militaires de cette journée ?
Alors c'est encore un peu tôt bien sûr et c'est totalement provisoire, mais les autorités civiles ukrainiennes, les maires des villes par exemple qui ont été attaquées ou les responsables régionaux donnent des bilans de victimes des bombardements et en les additionnant on arrive à près d'une centaine de personnes, de civils qui auraient été tuées aujourd'hui, c'est évidemment un chiffre minimum. Quant aux militaires ukrainiens, les victimes des combats se comptent là aussi en centaines très probablement. Côté russe, il y a des victimes aussi, c'est évident, l'état-major ukrainien parlait ce matin de 50 soldats russes tués dans le Donbass, info absolument invérifiable. En revanche, on a pu compter, photo à l'appui, le nombre d'aéronefs et de blindés russes détruits par l'armée ukrainienne. Une quinzaine d'aéronefs, 24 chars et une trentaine de blindés transport de troupes, en tout donc près d'une soixantaine de véhicules abattus avec les équipages qui se trouvaient à l'intérieur.
Merci Eric Biegala, envoyé spécial de France Inter à Kiev. De Kiev au Donbass, ce sont donc les mêmes scènes de panique. Les habitants qui tentent de fuir, se mettre à l'abri, font la queue pour des provisions de vie ou d'essence. Un autre de nos envoyés spéciaux, Valentin Dunat, a passé la journée sur la route de l'Exode, d'est en ouest du pays. Une situation totalement chaotique.
Le mot est à mon sens totalement approprié. Le pays est actuellement en plein chaos. Les Ukrainiens à qui j'ai pu parler aujourd'hui sont encore sonnés comme chaos debout. Eux qui vivaient encore tout à fait normalement il y a quelques jours. Il faut imaginer ce pays démocratique plus grand que la France, attaqué par un régime dictatorial dirigé par un homme qui prétend dénazifier leur pays. Imaginez la peur que cela provoque, et donc l'une des façons de réagir, c'est de prendre les valises et de quitter les zones menacées. Les conséquences, ce sont des files d'attente impressionnantes dans les stations-service, des jerrycans plein les coffres. À certains endroits, le réseau bancaire dysfonctionne, le réseau internet également. Et donc, il y a ces interminables files de voitures sur des routes de campagne défoncées, des Ukrainiens qui tentent de se frayer un chemin entre les villes, les sites bombardés et les mouvements de troupes russes. Il y a et il y aura, à n'en pas douter, dans les jours qui viennent, de très nombreux déplacés qui tenteront par tous les moyens de fuir les combats. Pavlograd, Ukraine, Valentin Dunat, Arthur Gerbeau, France Inter.
Et certains Français vivent cet exode, notamment des salariés ou des chefs d'entreprise installés sur place. Certains sont partis dès les premiers signes de tension, d'autres sont restés jusqu'au dernier moment, comme Nadim Sadeh, directeur de l'entreprise d'équipement électrique TechTrend. Il essaie de rejoindre la Pologne actuellement pour pouvoir rentrer en France.
Là, on est à 120 km de Kiev, ça fait 6 heures que nous sommes en voiture. Donc, il y a des embouteillages monstres, tout le monde essaie de partir. Il y a même des gens qui partent à pied avec sac à dos en tirant des bagages sur roulettes, malheureusement. Et dans Kiev, il y a la queue sur les pour les banques, pour l'essence. En fait, les gens ne s'y attendaient pas. C'est tombé d'un seul coup. Et là, on doit atteindre la frontière à 22h. Donc, on souhaite aller à Varsovie. Donc, dans la nuit, on devrait atteindre Varsovie dans la nuit. Enfin, tous mes collaborateurs, vraiment, c'est à contre-cœur que je les quitte. Ils sont tous à Kiev. Donc, il y en a quelques-uns qui ont pris la décision de rentrer dans leur village. Je suis plutôt inquiet pour quelques-uns. Moi, je leur ai conseillé de rester tous à Kiev, parce que dans une grande ville, je pense qu'ils pourront mieux se protéger que dans des villages. Mais voilà, c'est une décision qui leur revient.
Un chef d'entreprise français fuyant l'Ukraine, joint par Philippe Lefebvre. 500 ressortissants français sont encore sur place, selon le Quai d'Orsay, qui active une cellule de crise pour accélérer leur évacuation. C'est donc à l'aube que Vladimir Poutine a lancé l'offensive. Les mots au Kremlin dépassent l'entendement. Il s'agit de débarrasser l'Ukraine des nazis et de neutraliser son potentiel militaire. Dans son discours, Poutine a promis à ceux qui s'opposeraient à lui des conséquences encore jamais connues, menaces nucléaires à peine voilées donc. À Moscou, nous retrouvons notre correspondant Sylvain Tronchet. Bonsoir.
Bonsoir Cécile.
Et le président russe ce soir continue de justifier son intervention.
Effectivement, Vladimir Poutine qui est passé à la télévision tout à l'heure parce qu'il recevait les grands patrons russes au Kremlin, hein, les oligarques, pour leur dire que le pays était préparé aux sanctions, selon lui, qui a menacé de nouveau, mais sur le côté, sur le versant économique. Cette fois-ci, nos partenaires ne devraient pas se fixer pour objectif de nous sortir du système économique mondial, a-t-il dit. Le ministère des Affaires étrangères russe a d'ailleurs prévenu aujourd'hui que face aux sanctions, la Russie allait prendre des mesures de rétorsion. Elle l'a déjà fait, hein, d'ailleurs, la Russie, après les sanctions de 2014, en imposant à l'époque un embargo, toujours d'ailleurs d'actualité, sur les produits agricoles européens. Et puis le chef du Kremlin est revenu sur l'opération en cours en Ukraine pour dire en fait qu'il n'avait pas le choix. Ce qui se déroule actuellement relève de mesures contraintes, dit-il, car on ne nous a laissé aucun autre moyen de procéder autrement.
Contre cette dérive guerrière de leur président, certains Russes ont tenté de se rassembler à Moscou. Des manifestants très vite arrêtés. Vous y avez assisté, Sylvain ?
Oui, effectivement, hein, malgré l'interdiction de manifester, malgré la menace de sanctions, hein, qu'avait rappelé le ministère de l'Intérieur, hein, en Russie, vous brandissez une pancarte dans la rue et vous risquez 15 jours de prison. Hein, malgré la présence également de dizaines de fourgons de police tout autour de la place Pushkin et les arrestations qui ont commencé avant le début du rassemblement, eh bien, un gros millier de personnes quand même sont venues crier non à la guerre tout à l'heure, hein, dans ce haut lieu de la contestation moscovite. Et parmi eux, j'ai rencontré Lisa, une quadragénaire russe qui vit entre la Russie et la France.
En Russie, depuis plusieurs années, manifester, ça ne change rien, mais on n'a pas le droit de scander, on n'a pas le droit de brandir moindre bout de papier avec un slogan écrit dessus. On sait que ça ne sert à rien, mais c'est une sorte d'obligation morale. Moi, je n'ai jamais voté pour ce président, mais ce qu'il fait, il le fait au nom de mon pays, au monde de mes concitoyens, j'ai la honte.
Voilà, il y a eu quelques manifestations également à Saint-Pétersbourg, à Yekaterinbourg aussi, des arrestations à chaque fois. Un jeune homme, d'ailleurs un Alexandre que j'ai interviewé tout à l'heure, a été embarqué sans ménagement 20 secondes après que j'ai rangé mon micro. D'après le journal Novaya Gazeta, on en est à 800 arrestations ce soir en Russie.
Sylvain Tronchet, merci, en direct de Moscou.
Et puis une position très attendue, c'était évidemment celle de Joe Biden.
Le président américain s'exprimera depuis la Maison Blanche à 19h30. Le correspondant de France Inter aux États-Unis, Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir.
À quelles annonces, quel ton faut-il s'attendre à Washington ?
Écoutez, le ton sera sans doute relativement le même que lors des dernières interventions du président américain. Il y en a eu 3 de solennelles ces derniers jours. Et la réponse devrait rimer là encore avec invasion. Ce sera sans doute sanctions économiques, comme celles déjà annoncées en début de semaine. On les rappelle, 2 banques russes, 5 oligarques proches de Poutine et la société notamment qui gère l'exploitation du gazoduc Nord Stream 2, qui sont déjà dans le collimateur des États-Unis. Sur cette dernière, la Maison Blanche a utilisé l'expression, vous vous souvenez, il y a maintenant 11 milliards de dollars d'investissement qui rouillent au fond de la mer. C'est au portefeuille que Joe Biden devrait encore s'attaquer dans son discours d'ici une vingtaine de minutes maintenant, parce qu'il est sur la même ligne qu'une majorité des Américains ici. Il ne veut pas d'une nouvelle guerre avec des soldats US sur le front. On est 6 mois après ce qu'il a appelé la dernière guerre de l'Amérique, 6 mois après le retrait d'Afghanistan, et il ne devrait pas céder aux appels d'une partie des élus républicains ici à Washington qui lui demandent de repartir au combat, cette fois en Ukraine. Il y a d'autres cibles potentielles pour des sanctions financières encore plus lourdes. La porte-parole de la Maison-Blanche a elle-même cité cette semaine les 2 plus grandes banques russes qui détiennent à elles deux la moitié du système bancaire russe. Poutine lui-même pourrait être visé. Hier soir, dans son communiqué au début de l'intervention militaire russe en Ukraine, Biden dénonçait une attaque injustifiée, une guerre préméditée, et il disait qu'il priait avec sa femme Jill pour les Ukrainiens.
Et un peu plus tôt, le Premier ministre britannique a qualifié Vladimir Poutine de dictateur. Boris Johnson promet des sanctions massives sur la Russie. La réaction de la Chine est, comme attendu, très mesurée, pas de condamnation. Pékin dit comprendre les préoccupations de son allié russe. Emmanuel Macron assure, lui, que la France et ses alliés répondront sans faiblesse à cet acte de guerre. Le chef de l'État français s'est exprimé à 13h30. Vous avez entendu cette allocution de 4 minutes en direct sur France Inter. Il a qualifié l'offensive russe d'atteinte la plus grave à la paix en Europe depuis des décennies. Ces événements auront des conséquences profondes et durables sur nos vies, a même averti Emmanuel Macron. Un message présidentiel sera lu demain après-midi au Parlement devant les députés et sénateurs. Une procédure exceptionnelle prévue dans la Constitution. Cela fait 20 ans qu'elle n'a pas été utilisée. L'OTAN se réunit demain en visioconférence. L'Alliance Atlantique se dit prête à déployer des moyens supplémentaires pour protéger ses membres. La force de réaction rapide, soit 40 000 soldats, est en phase d'alerte. Dès ce soir, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se retrouvent à Bruxelles pour un sommet convoqué en urgence. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Bruxelles où la réunion doit débuter dans un peu moins d'une heure. Il s'agit donc de prendre de nouvelles sanctions massives, cette fois contre la Russie.
Oui, un arsenal préparé par la Commission en étroite collaboration avec les États-Unis qui sera soumis ce soir aux 27 dirigeants. L'idée, c'est d'affaiblir fortement l'économie russe en interdisant par exemple l'exportation de certains composants de haute technologie dans des secteurs clés industriels et militaires. Les Européens envisagent aussi de couper l'accès des banques russes aux financements européens, de geler les avoirs en Europe et d'interdire à de très proches collaborateurs de Vladimir Poutine de s'y rendre. Le secteur énergétique devrait aussi être touché. Nous serons sans faiblesse, ont déclaré plusieurs dirigeants européens aujourd'hui, dont le Premier ministre belge Alexander De Croo.
Il s'agit du plus lourd paquet de sanctions de l'histoire de l'Union. Le temps des sanctions graduelles est révolu. Si nous n'agissons pas, Poutine ne s'arrêtera pas une fois l'Ukraine sous son joug.
Mais faut-il tout de même utiliser dès demain la totalité des mesures envisagées ou garder quelques leviers ? Ce sera au cœur des échanges de la nuit. Les 27 ne seront pas tous impactés pareil par les mesures de représailles redoutées. Il faudra faire preuve d'unité, certes, mais aussi de solidarité, souffle un diplomate. Sur les questions économiques, mais aussi migratoires, l'accueil sur le sol européen des réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre sera également au menu de la soirée.
Angélique Bois en direct de Bruxelles. L'attaque russe a déjà des conséquences économiques partout dans le monde. Le prix du baril de pétrole s'enflamme à plus de 100 dollars. Il n'avait pas été aussi haut depuis 2014. Les bourses plongent, moins 5% à Paris, Milan, Francfort, moins 14% à Moscou. Inquiétude également sur l'approvisionnement en gaz. Le PDG du groupe Total Energy explique qu'il n'existe pas de solution à court terme pour remplacer le gaz russe qui représente 40% des besoins en Europe. Laurent Kramer, les cours de toutes les matières premières réagissent ce soir.
Oui, record historique du cours du blé qui s'est envolé plus 15% en une seule journée pour atteindre du jamais vu plus de 340 euros la tonne. Inquiétude donc dans les filières agricoles. Les cours du blé, du maïs mais aussi du colza se sont envolés depuis ce matin. 100 euros de plus pour la tonne de colza en une seule journée. Dans l'industrie, les regards sont fixés sur le cours de l'aluminium, du palladium et encore du nickel. La Russie produit à elle seule 6% de l'aluminium mondial. Le prix de l'énergie, vous l'avez dit, pousse lui aussi le prix de ses métaux, notamment de l'aluminium, vers de nouveaux sommets. Plus 50% sur le marché de gros pour le gaz naturel depuis ce matin. L'annonce de ces nouvelles sanctions européennes à venir sur l'économie et l'énergie venue de Russie fait redouter une nouvelle envolée des prix.
Et cet après-midi à Matignon, Jean Castex a réuni les ministres concernés économie, transition écologique et agriculture. En France, où plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui en soutien au peuple ukrainien à Marseille, Lille, Nice. À Paris, un rassemblement a lieu en ce moment, place de la République. Après une première manifestation à la mi-journée devant l'ambassade de Russie. La classe politique française dans son ensemble condamne le comportement de Vladimir Poutine, y compris dans le camp de ceux qui ont des discours habituellement bienveillants envers la Russie. Jean-Luc Mélenchon parle d'une escalade insupportable. Éric Zemmour demande la négociation d'un cessez-le-feu. Marine Le Pen appelle à la cessation immédiate des opérations russes. Maxence Lambrec, vous vous êtes plongé dans les archives récentes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont évolué dans leur position.
Oui, le leader des Insoumis a vraiment changé les lignes. Le voici il y a 3 semaines sur France 5.
Je considère que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie. J'admets que ça puisse choquer, mais je voudrais dire pourquoi. Parce qu'elle ne peut pas accepter que l'OTAN arrive à sa porte.
Et aujourd'hui, il ne trouve aucune excuse à Vladimir Poutine. Sa réaction à son arrivée sur l'île de la Réunion tout à l'heure.
L'attaque russe contre l'Ukraine est insupportable, quels que soient les motifs qui puissent être invoqués dans le passé récent.
Jean-Luc Mélenchon a bien senti le danger dans cette campagne vitrifiée où l'attitude à l'égard du Kremlin devient le seul sujet. Cet après-midi, les équipes de Valérie Pécresse s'en sont données à cœur joie en montant les dernières déclarations d'Éric Zemmour.
Moi d'abord, j'estime que c'est un patriote russe. C'est ça que j'admire d'abord chez lui. Il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine.
Et lui garde malgré tout le même ton. Voici son discours de la mi-journée capté par William Delesseux.
Nous aurions pu éviter cette catastrophe. Les Occidentaux ont une responsabilité dans l'escalade de la violence à l'Est. Nous n'avons hélas rien fait pour éviter cette escalade.
Marine Le Pen n'a pas encore pris la parole, elle le fera ce soir sur les réseaux. Ses adversaires ressortent son prêt russe de 9 millions, sa poignée de main avec Poutine en 2017 au Kremlin. Vont-ils tous les trois continuer de défendre demain la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN ? La politique étrangère, souvent survolée dans une campagne, devient centrale.
Maxence Lambrec du service politique de France Inter. Vous l'avez entendu sur notre antenne, sur la plupart des médias français et internationaux, cette information selon laquelle la vidéo de Vladimir Poutine annonçant le début de l'offensive avait été tournée dès le début de la semaine. Tout est parti de Novaya Gazeta, le média russe indépendant, qui a analysé ce qu'on appelle les métadonnées de cette vidéo, qui montrait qu'elle datait de lundi. Une armée de spécialistes s'est penchée sur ce fichier et d'après leur enquête, il y a erreur. La vidéo de Poutine a donc bien été tournée cette nuit, le fichier datant de 3h35 du matin. Vous lisez tout cela sur franceinter.fr. Notre site internet vous propose un dossier spécial en direct au fur et à mesure du développement des événements. Demain matin, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sera l'invité de France Inter à 8h20.
Dans le reste de l'actualité, Cécile, Jean-Luc Mélenchon, on en parlait tout à l'heure, valide sa candidature à l'élection présidentielle.
Selon le tout dernier pointage du Conseil constitutionnel, le candidat de la France insoumise a obtenu 540 parrainages. Cela devrait passer également pour Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui sont respectivement à 457, 415 et 414. Pour Christiane Taubira, la marche est encore très haute. Elle est à moins moins de 130 signatures à 8 jours de l'échéance. Une grosse frayeur dans un collège d'Amiens aujourd'hui. Un projectile a brisé une fenêtre. Il est venu se loger dans le mur d'une salle de classe sans faire de blessés. Le procureur de la République émet l'hypothèse d'une balle perdue. Le policier soupçonné du meurtre de sa compagne à Paris a été mis en examen pour homicide volontaire aujourd'hui et placé en détention provisoire. Il a été arrêté avant-hier après 3 semaines de cavale. Je vous rappelle donc les principales informations sur ce conflit en Ukraine ce soir. Des combats seraient en cours à Tchernobyl et les Russes auraient pris le contrôle du bâtiment selon les autorités ukrainiennes. Depuis Kiev, notre envoyé spécial fait état de ce bilan. Une centaine de civils ukrainiens tués et 50 soldats russes tombés également depuis ce matin.
Merci beaucoup Cécile Bideau. Le 18-20 spécial continue. C'est le temps de vos questions. Elles sont très nombreuses. Merci beaucoup autour de cette guerre et de ses conséquences. Ça se passe évidemment au 01 45 24 7000. Un peu de météo quand même et d'abord.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et avec Jean-Pierre Hameau. Jean-Pierre, demain, le soleil va s'imposer dans la plupart des régions.
Oui, Fabienne, avec déjà en matinée de belles éclaircies sur la moitié sud. Seul le massif pyrénéen et son piémont resteront sous les nuages. Et puis pour la moitié nord, il faudra être patient. Les nuages seront encore majoritaires dans le ciel en matinée, apportant localement quelques averses. Prévoyez de faibles chutes de neige sur les Vosges au-dessus de 400 mètres d'altitude. Et puis l'après-midi, le soleil va gagner du terrain pour s'imposer dans la plupart des régions. Seule la région Grand Est, la Franche-Comté, l'est de la Bourgogne, le nord de la région Rhône-Alpes et de l'Auvergne conserveront un ciel variable et quelques averses. Ça restera nuageux sur les Pyrénées. Mistral et Tramontane vont souffler entre 70 et 80 km par heure. À noter le retour de faibles gelées en fin de nuit dans le nord-est et le centre-est du pays. Les maximales évolueront entre 9 et 17 degrés du nord au sud. Et puis comme promis, votre week-end sera généralement ensoleillé. Prévoyez tout de même des gelées quasi généralisées au lever du jour.